Dans le texte que nous voulons de lire, il y a, je pense que vous vous en êtes aperçu, un sentiment de déjà-vu dans la lecture de ce texte. Marc nous a déjà relaté une multiplication des pains et des poissons, et il nous a déjà dit que Jésus avait nourri une grande foule. Ce n'était pas tout à fait le même nombre de personnes. Et ce n'était pas tout à fait, je pense que vous l'avez souligné, le même nombre de pains et le même nombre de poissons. Et ce n'est pas, je pense que vous l'avez souligné, le nombre également de paniers de restes. Mais quand même, la ressemblance est assez frappante. L'attitude des disciples l'est également. Les disciples, et c'est intéressant de le noter, ne semblent pas se souvenir de ce qui s'était passé la dernière fois. Et ils font exactement la même réponse à Jésus que la première fois. Comment peut-on donner à manger à une telle foule ? C'est exactement la même réponse. Et puis plus tard, après une nouvelle altercation avec les pharisiens, Jésus revient à la charge et évoque avec ses disciples les deux multiplications des pains. Vous vous souvenez, pour les 5000 hommes, combien vous avez emporté de restes de paniers ? 12. Et pour les 4000, combien ? Et les disciples répondent 7. Alors Jésus les regarde et leur dit : et vous ne comprenez pas. Eux, pas sûrs. Vous, pas sûrs non plus. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à comprendre dans ces deux multiplications des pains? Le fait qu'il y ait eu 12 paniers de restes la première fois et 7 la deuxième semble aux yeux de Jésus super important. Et la question, c'est pourquoi? Le fait qu'il y ait eu deux multiplications des pains semble important. Mais pourquoi? Et finalement, la question qu'on va se poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que l'altercation avec les pharisiens vient faire dans la multiplication des pains? Quel est le sens de cette mise en garde de Jésus? Jésus dit : méfiez-vous du levain des pharisiens, méfiez-vous du levain d'Hérode. Et la réaction des disciples montre qu'ils en étaient restés à une compréhension très terre à terre. Nous n'avons pas de pain. Alors, quand en utilisant l'image du levain, Jésus leur tendait sans doute une perche pour une compréhension plus spirituelle de ce qu'ils avaient vu. Et Jésus leur dit : ce pain-là, n'en mangez pas. Alors la référence aux pharisiens découle de l'épisode qui précède immédiatement. On l'a lu, mais je vais le rappeler. Dès son retour en Galilée, puisque Jésus était passé dans une terre étrangère, dès son retour en Galilée, Jésus est accueilli par les pharisiens. Et les pharisiens n'ont qu'un désir : lui tendre un piège. Il lui demande un miracle pour prouver qu'il est bien envoyé de Dieu. Et ça, je l'ai dit, mais il faut que ce soit bien clair pour nous, ça a le don de mettre Jésus en colère. Même si en tant que bon évangélique, on pense que Jésus ne s'est jamais mis en colère, Ma maman m'a dit une fois, mais Jésus s'est jamais mis en colère. Et quand je lui ai dit, et quand il a renversé les tables, qu'il a fait un fouet, alors elle m'a regardé, elle m'a dit, ah oui, mais c'était une sainte colère. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une sainte colère. Une colère, pour moi, c'est une colère. Et ça, ça a le don d'énerver Jésus. Parce que Jésus ne fait pas de miracle sur commande. Pas plus aujourd'hui qu'hier. Et la référence à Hérode remonte probablement à la première multiplication des pains. Car si vous avez une bonne mémoire, et je sais que vous l'avez, juste avant la multiplication des pains, la première, Jésus avait fait référence à Hérode et aux circonstances qui avaient amené celui-ci à tuer Jean-Baptiste. Les pharisiens et Hérode, ce sont donc les ennemis de Dieu, ceux qui s'opposent à l'œuvre du Seigneur, en s'opposant à Jean-Baptiste et à Jésus. Quant au levain, c'est ce qui ne se voit pas. Le levain ne se voit pas lorsqu'on l'a mélangé à la pâte. Je ne sais pas si vous êtes comme ma femme et que vous faites votre pain vous-même, mais faites l'expérience, faites une pâte à pain, mettez un peu de levain, brassez tout ça, et vous verrez que ça ne change rien. Ça n'a pas changé la couleur. Lorsque le levain est mélangé à la pâte, ça ne change pas la couleur, mais ça change tout. Il suffit de comparer un pain qui est fait avec du levain et un pain qui est fait sans levain, et vous verrez que ce n'est pas du tout pareil. L'influence du levain sur la pâte est fondamentalement quelque chose qui va tout changer et qui change la nature du pain. C'est donc bien de l'influence des pharisiens et d'Hérode dont Jésus parle. Alors on pourrait du coup se demander en quoi les disciples pouvaient être tentés par ce levain. Les disciples se rendaient bien compte que les pharisiens s'opposaient sans cesse à Jésus. Ils savaient également que Hérode avait fait décapiter Jean-Baptiste. Et du coup, les disciples se posaient sans cesse cette question, y avait-il vraiment un risque pour eux ? Mais ce n'est pas les pharisiens en tant que tels, ou Hérode en tant que tel, auxquels Jésus pense. Mais ce que pense Jésus, c'est ce que représente Hérode et représente les pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est la religiosité. Le levain des pharisiens, c'est le légalisme. Bien souvent hypocrite, et Jésus les combat sans cesse, comme l'ont fait tous les prophètes avant lui. Et c'est un levain qui trouve si facilement sa place dans le cœur humain. Celui de croire que parce que l'on pratique une religion, parce que l'on pratique un rituel, on peut s'attirer le regard favorable de Dieu. Je pense à cette personne qui me disait au soir de sa vie, « Dieu me le doit ». Eh bien non, mes amis, Dieu ne doit rien à personne. Que ça soit bien clair. Ce n'est pas parce que nous venons au culte tous les dimanches matins, à la réunion de prière le mercredi, que nous sommes à tous les groupes de quartier, que Jésus nous doit quelque chose. Jésus ne nous doit rien. Et le levain hypocrite, c'est cela. C'est de croire que parce que l'on fait des choses, on peut s'attirer le regard favorable de Dieu. Eh bien non, mes amis, c'est une religiosité qui en réalité dessèche notre cœur et transforme notre foi en une simple croyance. Et j'irai même plus loin, je dirais même que ce n'est pas une foi, c'est de la superstition. Et c'est grave. Quant au levain d'Hérode, c'est celui de la compromission avec le pouvoir, où le politique pollue le spirituel. C'est le levain de l'ambition personnelle. Et il y a, nous le savons, beaucoup de tristes exemples dans l'histoire de l'Église. Et je m'intéresse, et je m'interroge du reste, sur les rêves entretenus par certains aujourd'hui encore dans une France chrétienne qui ne l'est malheureusement plus autant que cela. Je m'interroge également sur un certain parti politique chrétien. Je crois, bien sûr, qu'en tant que chrétien, nous devons nous intéresser à la politique. Nous avons besoin de chrétiens, de chrétiennes qui s'engagent en politique. Mais ce que j'aimerais dire et rappeler ce matin, c'est que Dieu n'est ni de droite, ni de gauche. Il n'est même pas au centre. On entend parfois, et ça me choque, des discours partisans au nom de l'Évangile. Et ça, ça a le don, moi aussi, de me faire dresser les quelques cheveux qui me restent sur la tête. En tout cas, c'est intéressant de se rendre compte dans le texte que ces deux levains ont bien pollué, s'ils ont bien pollué la situation des contemporains de Jésus, on constate que ces deux levains ont bien pollué la pâte de l'histoire de l'Église. Et Jésus, dans sa barque, avait vu juste ce jour-là. Voilà pour le levain. Nous l'avons compris. Mais qu'en est-il du pain ? Il y a une certaine ironie à voir que juste après une multiplication des pains, les disciples constatent qu'ils ont oublié encore de prendre du pain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du reste ? Qu'est-ce qu'ils ont fait des restes ? Alors bien sûr, vous allez me dire, mais Jean-Claude, c'était peut-être longtemps après. On n'en sait rien. C'était peut-être longtemps après. Il y avait probablement un certain temps après l'épisode de la première multiplication des pains. Le récit ne nous le dit pas. Est-ce que c'est vraiment juste après ? Eh bien, mes amis, si vous regardez le texte, vous verrez que cette deuxième multiplication des pains se situe juste après la première. Et d'ailleurs, Jésus va y faire référence. Et ma question, c'est celle-ci. Les disciples auraient dû en retenir une leçon, et ils ne l'ont pas fait. Et du coup, nous devons apprendre une leçon. L'avons-nous fait ? Regardons le texte. La première leçon découle d'une compréhension naturelle. Les disciples, dit Jésus, n'ont pas à s'inquiéter de leur nourriture. Jésus leur avait déjà dit, dans les Béatitudes, il avait dit « Ne vous souciez pas de ce que vous boirez, de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus. » En clair, ce que Jésus est en train de leur dire et leur a toujours dit, « Ne vous faites pas de soucis, Dieu pourvoira. » Préoccupez-vous, vous, de votre côté, du pain spirituel. Et par deux fois, une foule tout entière va être nourrie avec quelques pains et quelques poissons. Dieu a donc pourvu. Et Jésus le leur rappelle. Alors, il peut bien encore pourvoir à la nourriture des disciples et de cette foule. En réalité, c'est ce que dira Jésus, et c'est ce qu'il avait dit déjà dans le sermon sur la montagne. Ne soyez pas inquiets. Les gens qui ne connaissent pas Dieu se posent sans cesse cette question. Que mangerons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Vous cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et les disciples auraient dû comprendre. Par les deux multiplications des pains auxquels ils ont assisté, ils auraient dû comprendre que Dieu allait pourvoir à leurs besoins. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose dans le texte que nous venons de lire, mais dont nous n'avons pas prêté attention ? Il peut nous arriver, et ça nous arrive souvent, de lire un texte et de ne pas faire attention à quelques détails. Parce qu'il y a dans ce texte des détails qui sont troublants. Est-ce que ça ne vous titille pas le fait que Jésus insiste vraiment lourdement sur le nombre de paniers restants, qui est, je vous le rappelle, différent la première de la deuxième. D'autre part, regardez le texte, quand on regarde bien, regardez le texte, d'où l'importance de venir au culte avec une Bible. Quand on regarde bien, on se rend compte que si la première multiplication des pains est clairement située en Galilée, la seconde a lieu, elle, en terre païenne. Elle ne se situe pas en Israël. Jésus redescendait vers le lac de Galilée. Il venait de Tyr et il avait traversé la Décapole. Et tout porte donc à croire que la foule, la seconde fois, était bien mélangée, beaucoup plus mélangée que la première. Et que dans cette foule, il y a des Juifs et qu'il y a des non-Juifs. Du coup, le fait qu'en terre juive, on récolte 12 paniers de reste et qu'en terre païenne, on n'en retrouve que 7, n'est sans doute pas un hasard. 12, nous le savons tous, c'est le chiffre symbolique du peuple de Dieu dans la Bible. 7, c'est celui de la perfection. C'est le chiffre parfait. Il y a donc deux multiplications des pains, la première en Galilée et la deuxième en terre païenne. Si dans les deux cas, c'est bien un signe du festin du royaume, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie tout simplement que Jésus est en train de dire que le royaume de Dieu est ouvert aux Juifs et aux non-Juifs. Voilà la leçon à retenir. Et c'est précisément ça que les disciples auraient dû comprendre. Et cela, justement, c'est contraire au levain des pharisiens. Rappelez-vous, quand Paul est obligé de se défendre, il commence à parler en hébreu, et Luc précise que quand il l'entendit parler la langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et l'apôtre Paul va leur expliquer. Je suis Paul, né à Tarse. J'ai été élevé au pied de Gamaliel, qui était à l'époque le plus grand des théologiens. Dans le judaïsme, c'est d'ailleurs le plus grand théologien que la terre ait porté. Puis il continue son témoignage. Jusqu'à ce qu'il dise, et j'entendis la voix du Seigneur me dire, « Va vers les nations ». À ce moment-là, tous les Juifs prennent de la terre, la lancent en l'air en criant, « Ôte de la terre, impérium, il n'est pas digne de vivre !» Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas digne de vivre ? Il n'est pas digne de vivre parce qu'il vient de prononcer une parole. Et Dieu m'envoya vers les nations. Parce que pour les Juifs, Dieu est le Dieu des Juifs, pas le Dieu des païens. Et ça, c'est le levain d'Hérode, le levain des pharisiens. Juifs et non-juifs sont accueillis à la même table. Et ça, ça ne plaisait pas du tout, mais alors pas du tout aux pharisiens. Jésus invite ses disciples. Jésus invite son Église. Il nous invite. Il nous invite à ouvrir notre table à tous. Il invite à un accueil que ni les pharisiens ni Hérode ne savent offrir. Et il nous demande de partager notre pain avec tous, dans une authentique solidarité. Il nous invite à partager le pain de la parole de Dieu avec tous. Et ça, ça ne peut pas se faire sans un regard d'amour, sans un regard d'accueil, sans un regard d'ouverture. Et si vous faites le compte, vous verrez que tout cela, c'est le contraire de ce que les pharisiens pratiquent. Parce que le Christ s'est offert à tous, l'Église doit être un lieu qui s'offre à tous. Je conclus. Il ne fallait donc pas moins de 2 multiplications des pains pour souligner cette vérité fondamentale de l'Évangile. Le Christ est le Christ de toutes les nations, pas seulement des Juifs. Le royaume de Dieu est ouvert à tous. Tous, juifs et non-juifs, sont invités au festin du royaume. Il n'y a devant Dieu exception de personne. C'est Paul qui dit « Devant Dieu, il n'y a plus ni juif, ni grec. » Il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous sommes tous égaux. N'en déplaise aux pharisiens de tout poil, si prompts à juger, si prompts à exclure avec leur pensée légaliste. N'en déplaise aux Hérodes de tout temps, prêts à tout sacrifier, y compris les autres, sur l'autel de leur ambition personnelle. Mes amis, attention de ne pas manger de ce pain-là. Soyons de ceux qui, comme Jésus, accueillent ceux qui sont sensibles, qui ont besoin que nous les entourions, qui ont besoin que nous les aimions, qui ont besoin que nous les encouragions. Soyons de ces disciples-là, plutôt de ceux qui jugent. En clair, partageons notre pain, partageons l'Évangile. Amen. Je vous invite à chanter « Je t'exalterai, Seigneur ». Et je vous invite à vous